société avec Nick Payne.
Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute et bienvenue à cette autre édition de Société. Très heureux d'être au microphone encore aujourd'hui. Alors, à l'émission cette semaine, c'est très simple, bilan de session, tant à Québec qu'à Ottawa, de session parlementaire, bien sûr. Nous allons aussi, alors ça, ça se fera avec Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe et Farouk Karim un peu plus tard. Et puis, un peu plus tard aussi à l'émission, Frédéric Lacroix nous parle de cette initiative menée, semble-t-il, par Gilles Duceppe, regroupant les six derniers premiers ministres vivants là, du Québec en faveur d'un renforcement de la loi 101, plus spécifiquement là, de l'application de la loi 101 sur les entreprises de charte fédérale. On y reviendra là, tout à l'heure avec Frédéric Lacroix. Une rare alliance entre péquistes et libéraux sur la question de la langue, donc. Et on se demandera ce que ça veut dire exactement. Mais commençons tout de suite avec les deux Fred, Bérard et Lapointe. Frédéric, bien sûr, pour les gens qui sont un peu moins intimes que nous, parce qu'évidemment, on est très, très intimes. Bonjour, les Frédéric.
Salut, jeune homme.
Alors, Frédéric Bérard, chroniqueur au Journal Métro, juriste également, et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique et membre de 1001 partis politiques. Non, j'exagère, mais je sais que vous êtes toujours impliqué dans une assemblée ou une autre. C'est très impressionnant. Vous êtes vraiment un spécialiste de la chose.
Puis, la dernière en date était le Bloc POC.
Mais je voulais pas le dire, mais c'est ça qui m'a surpris. Je vous imagine. Enfin, on a tout de suite des images là, qui nous viennent à l'esprit, qui vont pas nécessairement, mais on sait rien. On veut pas aller dans votre vie privée, mais donc le Bloc POC, puisqu'on en parle, Frédéric Lapointe, comment ça se fait que ça existe encore? Ça, c'est pas réglé, ça, la question du POC?
Ben, il me semble que la prohibition est considérée inacceptable du point de vue des militants du Bloc POC, la prohibition de la culture hein, au-delà des quatre plans qu'on peut conserver chez soi, et également le discours public notamment en matière de santé au sujet de la consommation du cannabis, semble justifier le maintien de leur offre politique.
Notamment la restriction en bas d'un... comment dire? Le fait que le gouvernement Legault ait fait le choix de conserver une forme de prohibition en dessous d'un certain âge, là, c'est ça?
Exact.
Entre 18 et est-ce que c'est 21 ans, si je ne m'abuse. Alors, je comprends. Donc, il reste des combats à faire là, de ce côté-là pour les militants du Bloc POC. Ben, vous l'aurez appris ici, chers auditeurs, si vous n'étiez pas déjà au courant. Alors, commençons par les vraies affaires, messieurs. Le retour de Marie-Pierre Morin, c'est trop tôt, d'après vous? Je pensais pas avoir une réaction comme celle-là. C'est des sujets sérieux dans le temps des fêtes. Il faut quand même qu'on...
Il y a le spectacle d'Éric Lapointe aussi en ligne, Nick, si jamais.
Ah oui, c'est vrai? Ah bon?
Oui, oui.
Bon, alors voyez-vous...
C'est le retour du politiquement incorrect.
Oui, en effet, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, parlons-en de politique. Bilan de session à Québec, d'abord, bien sûr. Frédéric Bérard, c'est quand même la session Legault, non? Monsieur Legault, 3, 2, 3, 4 points de presse par semaine. Il n'a pas, François Legault, cette espèce de garde du corps politique. On pense à Yves-François Blanchet pour Pauline Marois, par exemple, ou d'autres comme ça. Il est vraiment... il n'a pas de paratonnerre, non? Est-ce qu'il s'en tire bien jusqu'ici, en cette fin de session?
Moi, j'irais même jusqu'à dire que François Legault est en train de créer une tendance, ou peut-être, on pourrait peut-être même le qualifier, sûrement que j'exagère un peu, mais d'épiphénomène en quelque sorte. J'essaie de comprendre la recette de Legault pour que les gens l'aiment autant malgré un nombre quand même assez important de décisions impopulaires. Là, et elles peuvent être impopulaires et justifiées, là, cela dit, là, mm-hmm. particulièrement en temps de COVID. Mais j'ai l'impression que c'est l'espèce de franchise de ce gars-là, de bonhomie, de « bon, on s'est trompé, je me suis trompé, ben oui, ben c'est comme ça, puis c'est pas grave, puis là, on va se reprendre, puis là, on s'entend bien, là, on a un contrat moral, hein, ah ben là, on n'a plus, ben là, qu'est-ce que vous voulez, mettez-vous à ma place, puis j'aurais pas dû vous le dire, je vous l'ai dit, je suis désolé. » Ça passe comme une lettre à la poste, pratiquement à chaque fois, évidemment, on soustrait la portion quand même considérable de coucou, là, eux, je pense, de toute façon, il n'y a rien à faire, mais de manière générale, il a créé un nouveau modèle de policier. Si on regarde, par exemple, bon, Couillard, c'est peut-être pas le meilleur exemple, Jean Charest non plus, mais peut-être même Pauline Marois, on a toujours l'impression qu'il nous cache peut-être un peu quelque chose. Lucien Bouchard avait une stature, Bernard Landry aussi, mais est-ce qu'ils nous disent réellement toute la vérité, alors qu'avec François Legault, on a vraiment l'impression d'avoir, et je déteste l'expression qui les woke me la reprocheront, mais celle du bon père de famille, comme on l'appelait dans le Code civil du Bas-Canada, c'est-à-dire, ah ben moi je prends soin de vous, je suis bienveillant, je peux faire des erreurs, mais c'est pas plus grave que ça, je vais toujours vous parler en toute franchise, puis on est tout le monde ensemble là-dedans, là, puis on s'énervera pas, là, hein, puis je trouve ça assez formidable de voir ce type de politicien que je qualifiais, et j'arrête là-dessus, de populiste d'un point de vue contenu, bien souvent. Mais d'un point de vue forme, je pense que ça, c'est tout à son avantage, en fait.
Vous vous êtes bien protégé en vous appuyant sur le Code civil du Bas-Canada. Mais oui, Frédéric Lapointe, est-ce que il y a alors c'est vrai que la marque, la façon Legault très comment dire, c'est aussi quelqu'un qui est très comment dire, simple, authentique peut-être. En tout cas, c'est on a l'impression de jaser avec le voisin ou c'est pas l'homme politique jupitérien, vertical, disons, à la Lucien Bouchard, ou très distingué. Là. Quoi qu'il y ait une verticalité chez François Legault, on sent beaucoup de leadership. Mais la question que j'allais vous poser, c'est, outre ça, qui existait déjà, ce dont a parlé Frédéric Bérard, la capacité de reconnaître des erreurs, par exemple. Il a commencé ça pendant la campagne électorale en 2018 sur l'immigration, notamment. Mais là, est-ce que c'est pas aussi la circonstance extraordinaire de la pandémie qui le place dans une position très particulière? C'est souvent dans les moments comme ça, tragiques ou importants de l'histoire, que les hommes politiques font leur marque. Des fois, des gens qu'on n'avait pas vu venir, là, et puis qui deviennent des personnages historiques. Est-ce qu'il ne doit pas ça aux circonstances? Et je vous rappelle en terminant que Lucien Bouchard était le héros national pendant la crise du verglas, et pas longtemps après, il a failli perdre ses élections. Hein?
Exact. Et je pense qu'on peut se retrouver face à un phénomène du genre. Lorsqu'on demande aux Québécois est-ce qu'ils sont satisfaits de la gestion de la pandémie par le gouvernement Legault, il y a une majorité assez forte qui répond oui. On pourrait appeler ça la majorité cohésive, là, ceux qui suivent les règles sanitaires. Mais l'inquiétude pour François Legault, c'est qu'une partie de son électorat de la dernière élection était un électorat anti-intellectuel, anti-establishment, et cette portion de l'électorat, il est en train de la perdre avec la relance probable d'un parti conservateur du Québec, peut-être avec à sa tête un Éric Duhaime. On les voit poindre dans les sondages un peu en dessous de la barre des 10%, mais ça, c'est des électeurs qui le prennent à la CAQ.
Attendez,
ont voté à la CAQ la dernière fois.
Vous parlez du Parti conservateur, là, d'Adrien Pouliot, en dessous, quand vous êtes près de 10%, quoi?
Oui, ils sont près de 10% dans le dernier sondage, et je pense que lorsqu'ils vont avoir un peu plus de visibilité, la lassitude vis-à-vis les mesures sanitaires vont s'accentuer, je pense que ça va, paradoxalement, l'émiettement de la scène politique qui pouvait profiter là à un parti politique au pouvoir, hein, se maintenir à 40-45%, voire dominer le paysage politique. Mais là, cet émiettement va se faire au prix de au détriment là du gouvernement Legault et de la CAQ. Et donc, il y a de l'usure qui va se manifester. Et je pense que l'exemple de la crise du verglas est très bon. C'est-à-dire que lorsque, d'ici les prochaines élections, tout ceci va se tasser, ce sont d'autres enjeux qui vont se poindre. Et là, la CAQ et le gouvernement Legault vont vivre avec un certain nombre de contradictions. La contradiction, par exemple, entre le déficit budgétaire, les mesures d'austérité qu'ils vont devoir envisager et leur parti pris avec lequel je suis bien d'accord là, pour une politique budgétaire prudente. Sur la langue française, ils vont avoir de la difficulté à satisfaire tout le monde. Et donc, non, moi, je vois, comme la majorité des Québécois, je suis assez satisfait de la gestion de la pandémie, mais je vois quand même des risques politiques à l'horizon.
À moins que, et on ne se le souhaite pas, la COVID-20 ou 21 ou 22 nous prenne après la 19, espérons que non. Parlons des ministres quand même. Il y a vraiment une toute petite poignée de poids lourds, de ministres de calibre jusqu'ici, hein, il faut bien le dire, en tout cas, qui se sont manifestés. Frédéric Bérard, commençons par le ministre Dubé, puisque c'est le nouveau ministre et homme fort, d'une certaine façon, de ce gouvernement. Comment vous jugez son action jusqu'ici?
On m'avait dit que Dubé était l'un des meilleurs cerveaux autour de la table là, du gouvernement Legault. C'est un gars avec une certaine expérience qui est assez précise, cela dit, en matière de finances, mais il a quand même une stature d'homme d'État. Si je peux dire, évidemment, de le placer à la santé n'était pas nécessairement une décision...
Ça n'allait pas de soi?
Ben non, je pense pas. En fait, il n'y a pas du tout ce profil-là. Ceci dit, il y a peut-être eu un peu de cafouillage au début avec le truc des couleurs, là, on s'en souvient. Mais au final, je pense qu'il a eu gain de cause et je comprends ce qu'on m'avait dit. Je suis d'accord avec cette assertion-là. Le gars a clairement une stature d'homme d'État. Évidemment, c'est pas un gars très charismatique, c'est pas un gars qui est très sympathique non plus. Mais ceci dit, qu'on pense bien peut-être justement pour Legault. L'air un petit peu moins brouillon, mieux organisé, peut-être, moins bon communicateur aussi, mais rendu là, on s'en fiche, ça prenait quelqu'un peut-être pour tenir la barque un peu plus serrée, et je pense qu'il a pris la place, pas dans le cœur des gens nécessairement, parce que de toute façon, l'autre n'y est plus non plus, mais la place de Arruda, si je peux dire, dans cette gestion de crise-là. Je pense qu'on a réalisé qu'avec Danielle McCann, qui était bien sympathique et qui était compétente aussi, mais probablement qu'elle n'avait pas la pointe nécessaire pour faire face à la santé publique, ce qui est manifestement le cas de Dubé. On voit qu'il y a eu un rapatriement là, de plusieurs décisions. Et j'ai comme l'impression, vous parliez tout à l'heure de l'absence de goon là, auprès de Legault. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Mais Dubé, s'il n'est pas goon, je pense que c'est quand même clairement l'un des hommes de confiance de Legault. En tout cas, dans cette crise-là, ça me semble assez indiscutable.
Une sorte de complément, donc, par sa rigueur et son côté plus peut-être plus performant, plus...
Je dirais, c'est ça,
que M. Legault et M. Arruda, qui était un personnage, comme vous le dites, central des conférences de presse, notamment, et la gestion de cette pandémie, bien sûr. Parlons, je continue avec vous, Frédéric Bérard, de M. Fitzgibbon et ces blâmes qui ne cessent de venir, et on sent toujours que ça ne fait pas tellement plaisir à cet homme d'affaires habitué, on dirait, d'être entouré de gens qui lui disent oui et qui le vénèrent. En tout cas, c'est une impression que j'ai, là. Je ne sais pas si vous la partagez, mais est-ce que tout ça va finir par avoir raison de lui, un, et deux, François Legault prend-il un risque en l'appuyant cette fois-ci et en étant même allé jusqu'à dire ben, de toute façon, il faudrait modifier le code d'éthique. Que M. Legault ait raison ou non par ailleurs là-dessus, c'est un drôle de message envoyé, non pour quelqu'un qui a un peu fait sa marque politique de dire on va assainir l'éthique et ainsi de suite.
Avez-vous pensé deux secondes si ça avait été Philippe Couillard ou Jean Charest qui avait fait une déclaration comme celle-là?
Ben ça aurait été terrible, hein? Oui, c'est ça.
Bon, pas grave. C'est ça que je vous disais. C'est que Legault, puis c'est le truc de la poêle téflon, il n'y a rien qui colle, ça marche. C'est assez épouvantable d'aller dire « Ah, ben mon ministre s'est fait coincer, ben là, vous comprenez, on a juste à changer le code d'éthique, puis on va régler ça. » Je veux dire, quel politicien aurait ce luxe-là? Moi, j'en connais pas actuellement. À Québec, dans le passé, encore moins. Les petits amis de Fitzgibbon, les petits amis libéraux, c'est quoi? Quand ils étaient italiens, c'était grave, mais si ce sont de bons blancs francophones de région, c'est moins grave. Je veux dire, c'est le même pattern, là. D'ailleurs, 100$ pour avoir accès à un ministre, ça fait pas mal plus vieux métier du monde, là, si je peux dire ça comme ça. Puis pour le reste, disons franchement, faudrait peut-être que...
Vous parlez des taxidermistes, là, vous. Oui, c'est ça.
Exactement, non, la maçonnerie.
Ah oui!
Mais pensons-y deux secondes, là. Faudrait peut-être que quelqu'un envoie le mémo à Fitzgibbon, là. Il est plus président là, du club optimiste de Verdun là, avec les chummies de la Chambre de commerce. Là. C'est plus ça, là. Il est devenu ministre. C'est sérieux. Il y a des règles qui s'appliquent. Et là, à un moment donné, tu as le choix. Hein? Tu les suis ou tu peux retourner aussi boursicoter à la journée longue. Ça, c'est une possibilité. Pierre-Carl Péladeau, qui n'était pas le plus subtil en matière de conflit d'intérêts, a quand même dû s'assujettir à certaines règles. Bon, il a étiré l'élastique au maximum, ça, on le sait bien, mais quand même, on a appliqué des règles à Péladeau, puis c'était clair au final que c'était ce qui devait se passer. Alors, je vois mal comment on pourrait pas appliquer ça à quelqu'un qui a nécessairement beaucoup moins d'envergure d'un point de vue D'un point de vue business, si je peux dire, que Péladeau.
Frédéric Lapointe, posons la question franchement. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou de faire les gorges chaudes là-dessus? Est-ce qu'on confond les choses, par exemple, l'espèce d'odeur de corruption systémique, j'allais dire, sous les libéraux, et par ailleurs, la probité et l'éthique plus ou moins parfaite des ministres actuels? Est-ce que la morale, est-ce que ce qu'on veut en politique, ce sont des moines, ou est-ce qu'on est capable d'imaginer? Parce que vous avez beau mettre votre entreprise sous la gestion d'un fiduciaire quelconque ou vous en éloigner, vous avez toujours des amis dans la vie. Votre beau-frère, jusqu'où faut-il aller dans cette espèce de quête de propreté absolue?
Ouais, il faut être capable de mettre en place des stratégies de développement économique, là, ça va de soi. Mais je pense que même si on a vécu 10 bonnes années de lutte à la corruption, il faut pas oublier que pendant des générations, les gens d'affaires au Québec, c'est pas exclusif au Québec, ont vécu de la mamelle du gouvernement et que ce réflexe-là est toujours présent dans la communauté des affaires et dans une organisation politique inexpérimentée comme la CAQ, parce que c'est des erreurs, j'oserais dire, de débutants, là, ces histoires d'éthique. C'est évitable. Là,
ben alors, M. Fitzgibbon dit que, notamment qu'il n'a pas réussi à vendre les entreprises en question là, depuis qu'il est en politique active. Bon, on peut comprendre qu'en temps de pandémie, peut-être, j'en sais rien, je ne vais pas le défendre, mais jusqu'où, je vous laisse aller, mais jusqu'où faut-il aller?
Ouais. Ils sont capables d'être prudents. Et donc, comme ils sont inexpérimentés, il y a beaucoup de gens dans ces organisations qui peuvent prendre des mauvais plis. Quand on parle aux gens de la CAQ, ils s'imaginent au pouvoir pour les 16 prochaines années. Et donc, tous ces facteurs-là font un peu le lit du retour du favoritisme, du retour du patronage. Et là, les libéraux qui, eux, je le répète souvent sur ces ondes, se sont pas mal nettoyés de ça, se sont coupés des réseaux d'affaires un peu incestueux là, en province, ben c'est la CAQ qui en hérite. Et donc, je ne voudrais pas que parce que François Legault fait preuve de bonhomie ou parce que Jacques Duchesneau a déjà été un candidat et un député dans ce parti-là, ben qu'on relâche notre surveillance envers le gouvernement et les liens parfois un peu trop incestueux là, qu'ils peuvent entretenir avec les hommes d'État. Parce que c'est trop facile pour des gens d'affaires de faire de l'argent à travers des contacts, des décisions politiques, plutôt que de le faire à travers de l'innovation et à travers des relations d'affaires et non pas des relations politiques.
Mais est-ce qu'on est à risque, je termine là-dessus, sur ce sujet-là, de faire fuir les gens qui ont ce type de pedigree là, comme M. Fitzgibbon là, en affaires, et de se retrouver avec des avocats, des travailleurs sociaux, des gens de l'UQAM? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'on va trop loin ou vous pensez que c'est quand même justifié là?
Je pense que le problème de Fitzgibbon, de M. Fitzgibbon, c'est qu'il se fragilise politiquement par ce genre de maladresse. À un moment donné, il pourrait être en désaccord politique avec son premier ministre ou avec d'autres ministres. Et s'il continue à accumuler des casseroles attachées à ses mollets...
Ah ben, ça sera la cerise sur le sundae, ouais.
Ben voilà. Mm-hmm. Donc, il ne sera plus capable d'être un ministre efficient et d'imposer son point de vue.
Oh, vous avez lâché le mot technocratique, efficient. Soyons efficients et allons à Frédéric Bérard. Parlons des partis d'opposition. Ont-ils été efficients? Je fais exprès. Pardon, déficient?
Moi, c'est déficient.
Oui, pardon. Vous étiez à un D de l'efficience. Mais est-ce que... parlons du Parti québécois et de Québec solidaire et du Parti libéral. Allons-y avec le Parti québécois, pourquoi pas, puisque Paul Saint-Pierre Plamondon en est maintenant le chef. Il y a donc eu un changement important. Là, on reviendra aussi avec le Parti libéral et Dominique Anglade. Le PQ. Est-ce qu'il y a un avenir pour ce parti-là? Avez-vous eu l'impression qu'on pouvait davantage identifier ce parti, ce qu'il cherche à faire, le message qu'il cherche désormais à apporter à l'Assemblée nationale?
Ben, vous savez ce que je pense de Plamondon, là, côté sincérité, mais reste que c'est un hyperactif qui est un amoureux des caméras comme on en a rarement vu. Alors, il va tracer sa...
Oui, ben à part sa, vous, évidemment.
Moi, c'est pas la même chose. Ah. Moi, je suis dans la déficience, j'aimerais vous le rappeler.
Ah oui, d'accord, parfait.
Et ce qui fait qu'il va tracer sa voix jusqu'aux caméras, il va être présent, ce qui est nécessairement une bonne chose, puis c'est un gars intelligent, le Plamondon. Reste que ses contradictions ont déjà refait surface. Je suis pas sûr qu'il va être capable de survivre à celle-ci totalement, mais dans tous les cas, même s'il parvenait, là, je pense que le PQ et les péquistes, de manière très générale, là, au-delà des députés, là, je parle des électeurs péquistes de façon plus large, doivent réaliser qu'ils sont à la croisée des chemins. Là. Parce que ça a été rigolo là, d'appuyer toutes les stratégies identitaires de la CAQ, la loi 21, sans faire eux-mêmes des porte-étendards, là, tout excités, qui étaient simulés sur la place publique aussitôt que quelqu'un ose critiquer la dite loi 21. Mais là, c'est parce qu'il va falloir choisir. Là. Est-ce que vous êtes caquiste ou vous êtes péquiste?
Ou est-ce que vous êtes Québec solidaire? Ouais.
Il y a une fusion là, entre les deux. Et là, à force d'aller amouracher cette loi-là, qui est le fer de lance de l'héritage identitaire caquiste, de toute évidence, actuellement du moins, ben là, c'est parce que les gens sont confus, parce que entre la loi 21 et le projet d'indépendance, à l'heure actuelle, ils aiment beaucoup mieux la loi 21, puis l'indépendance, ben, c'est un référendum, c'est du trouble, on n'est pas là, puis pati, puis pata, surtout en pleine COVID. Ben là, il va peut-être falloir changer le discours un peu, puis ramener ça peut-être sur la question d'indépendance, ramener ça sur autre chose que, hey, tout ce qu'a fait la CAQ en matière identitaire, c'est bon.
Parce c'était
que
là, bien,
les gens
oui.
sont mais absolument confus et risquent clairement de déserter le PQ une fois pour toutes. Et quand je dis une fois pour toutes, c'est réellement une fois pour toutes.
Alors, rappelons, oui, à nos auditeurs que vous êtes impliqué dans ce recours contre la loi 21 vous-même à titre absolument. D'avocat. Est-ce que, revenons au Parti québécois, alors, a-t-il, Frédéric Lapointe, marqué, commencé à trouver un autre propos que celui-là? Parce qu'on n'a pas beaucoup entendu tout de même cette session-ci sur les questions d'identité et de nationalisme, là, y compris l'affaire de la loi 21, sauf peut-être pour parler du français, mais c'est davantage par la bouche et dans la campagne de son nouveau chef qu'on a entendu ce genre de propos-là. Est-ce que le Parti québécois aujourd'hui réussit à installer son identité et est-ce qu'il se distingue de Québec solidaire, notamment? Est-ce que les électeurs font la différence entre ces deux partis-là à l'heure actuelle?
Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Pour le meilleur et pour le pire...
Je pose la question, je parle de Québec solidaire parce que ce sont les deux partis en principe souverainistes. Là.
Du simple fait que le Parti québécois prenne une position différente sur la question du racisme systémique, le fait que sur la loi 21, ils ne sont pas à la même place, ça suffit largement pour tracer une ligne entre ces deux partis. Politique. Par ailleurs,
est-ce que ça suffit par ailleurs, oui,
pour ça suffit largement. Et par ailleurs, le Parti québécois, sa zone de croissance, sa pertinence politique, c'est en ce moment comme deuxième choix d'une grande partie des électeurs caquistes qui, tout à l'heure, tôt ou tard, seront désenchantés du gouvernement Legault, du gouvernement Intel, ou en tout cas de cette formation politique. Donc, la vocation du Parti québécois n'est pas de convaincre quelqu'un de plus woke que lui-même de voter pour le Parti québécois. C'est pas là que ça s'en va. Et donc, notre ami,
ça s'en va vraiment pas là, effectivement.
Donc, notre ami Paul Saint-Pierre Plamondon, il a réussi, sur un plan purement médiatique, à exister, même s'il n'est pas député à l'Assemblée nationale. C'était une question qui nous habitait au courant de l'automne. Est-ce que quelqu'un qui est chef sans être à l'Assemblée nationale peut être dans les médias? Ben, manifestement, la réponse à ça, c'est oui. Et si je complète le portrait des oppositions, je vous souligne...
Ben, attendez juste un peu, juste un instant sur le Parti québécois. Vous pensez pas, vous, comme Bérard, que peut-être que l'indépendance serait un sujet sous la bannière de laquelle se loger pour le Parti québécois, non? Parce que jusqu'ici, vous me parlez d'une sorte de deuxième CAQ, de CAQ de remplacement.
C'est ce qu'il fait. D'ailleurs, sur ses ondes, j'ai critiqué le fait que au Conseil national du Parti québécois,
on faisait trop ça.
Parallèle à celui de Québec solidaire, on a parlé que de l'indépendance, alors que les sujets ne manquaient pas pour traiter, pour une fois, depuis deux ans, d'un autre sujet. Donc non, ils sont à la limite un peu beaucoup sur cette
cette
chemin-là.
Mm-hmm.
Et Et ce même week-end, donc, Québec solidaire avait réussi à positionner une proposition politique très forte, très pertinente, qui était de taxer les gagnants de la crise pour pouvoir sauver les services publics et ne pas faire des déficits éternels. Je vous souligne que cette formation politique, il n'y a pas 10 ans ou 20 ans, les déficits, c'est quelque chose de très bon et que de lutter contre le déficit, c'était d'être de l'extrême droite. Ils sont en train de se positionner comme, sur le plan financier à tout le moins, comme quelque chose de plus raisonnable.
Frédéric...
Et donc, cet automne, ben, moins Catherine Dorion, plus de politique publique, moi je trouve que ça va bien du côté de Québec solidaire également.
Vous me volez mon punch, Frédéric Bérard, puisqu'on est sur Québec solidaire. C'est effectivement la fin abrupte du spectacle Dorion. Il n'a vraiment pas été question de ça dans cette session-ci. Est-ce que ce parti, comme le dit Frédéric Lapointe, a su se rendre un peu plus sérieux, avoir l'air un peu moins dépensier, hyper d'extrême-gauche sur ces questions-là, comme le dit Frédéric Lapointe? Trouvez-vous ça, vous?
Ben, moi, c'est sûr que d'avoir mis un frein au Catherine Dorion Show, évidemment, aide beaucoup pour plusieurs. Moi, j'étais parmi ceux qui étaient absolument incapables de toutes ces distractions-là. Mais une fois qu'on a dit ça, on aime bien qualifier Québec solidaire d'extrême gauche, de ci, de ça, de ramassis, de woke. Franchement, au final... Quand je regarde les sorties de Manon Massé et de Nadeau-Dubois, ne serait-ce que pour ces deux-là, je trouve très, très, très habituellement qu'on est en présence de sorties qui sont, en tout cas, à mon avis, brillantes, posées. On n'est pas dans le domaine de la fatouinerie, là, puis des histoires absolument débiles. Quand, par exemple, Nadeau-Dubois met de la pression sur notre ministre Roberge à l'effet que ça prend une ventilation adéquate dans les écoles. C'est-à-dire, c'est du gros bon sens. Comment se fait-il qu'on est même incapable de porter attention à ça plus que deux secondes? Manon Massé est sortie encore hier ou avant-hier en disant que ça n'avait aucun sens qu'il n'y ait pas de couverture d'assurance sur les réserves autochtones. C'est-à-dire, c'est quand même un minimum. Comment se fait-il qu'il s'agit du seul parti à soulever des trucs du genre? Est-ce que c'est de l'extrême gauche, ça, de vouloir une couverture d'assurance auprès d'Autochtones?
Alors, vous dites qu'ils sont les dignes héritiers de Louis Arel ou quelque chose comme ça?
Minimalement, ou même, en fait, de la frange à gauche du premier gouvernement de René Lévesque. C'est-à-dire, moi, si Lévesque était encore en vie et on lui avait posé ces deux questions-là, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Ah non, moi, je ne suis pas un communiste. Et voyons donc, c'est la base même, mais on a tellement catégorisé Québec solidaire à une espèce dans une espèce de case de néo-farfelu clownesque avec le matrimoine. Là, ça, c'est parce qu'il y a une militante bozo là, qui avait dit un truc du genre il y a ça 3-4 ans. Et ça les suit depuis toujours. Mais je veux dire, est-ce qu'on s'intéresse un temps soit peu à ce qu'il propose d'un point de vue politique? Moi, je ne crois pas. Et ça me désole. Que ce parti soit seulement à 10% ni plus ni moins dans les sondages, c'est bien sa faute et son problème pour les raisons qu'on a énumérées. Mais sur le fond... Bien franchement, notre société mériterait qu'on entende davantage des suggestions qui sont, à mon sens, un minimum, là, à vrai dire, sans s'enfarger dans le truc technocratique comme on le fait trop souvent.
Terminons, Frédéric Bérard, notre tour de table des partis, puis on va se quitter après ça avec les libéraux, bien entendu. Nous étions tous un peu dubitatifs lorsque Dominique Anglade a été presque sur un coin de table nommé chef de ce parti en pleine pandémie, en pleine première vague. Après des débuts un peu hésitants, est-ce qu'on ne sent pas qu'elle s'installe et qu'elle a réussi au minimum à rassembler là, autour d'elle dans le Parti libéral?
J'ai eu quelques discussions avec Dominique que je ne connaissais pas avant de l'avoir interviewé au métro, je le dis en toute franchise, des discussions bâton rompu sur quelques sujets qui m'interpellaient ou qui l'interpellaient, peu importe.
Et vous êtes déjà rendu à l'appeler par son prénom, c'est dire que ça s'est bien passé?
Je veux dire, est-ce que c'est différent de la plupart des chefs de parti à Québec? Je ne crois pas. Pour le reste, j'ai... trouver en sa personne une interlocutrice absolument intéressante. Et je le dis, j'avais des réserves un peu sur le contenu. Je me disais, les jeunes politiciens du genre, souvent, là, qui passent par des trucs de commerce, moi, je me méfie toujours un peu. Mais franchement, non, c'est quelqu'un qui a lu, c'est quelqu'un de cultivé. Ses deux parents étaient des universitaires. On connaît la tragédie.
Qu'elle a perdu là dans le tremblement de terre.
Voilà, merci.
Haïti.
D'une tristesse absolue. Mais ceci pour dire que Dominique, puis je c'est pas une amie. Là, je ne l'ai pas vue en personne, là, si ça peut vous rassurer. D'aucune manière, j'ai parlé à peine quelques reprises. Mais c'est quelqu'un de tu sens qui est humain, qui a un bon sens pragmatique, mais qui a un volet intellectuel, une profondeur intellectuelle qui paraît peut-être pas dans le détail encore une fois, mais ça, ça va venir. Et le fait justement qu'elle aborde ces enjeux-là avec une certaine forme d'intellectualisme qui est pas nécessairement déconnecté comme celui de Philippe Couillard, là, qui est un neurochirurgien, qui est un gars académiquement intelligent, ça va de soi, mais qui était parfaitement déconnecté côté intelligence émotionnelle. Ben c'est pas le cas de Dominique Anglade, qui est une espèce de fusion, si je peux dire, des deux. Maintenant, les défis que feront face le PLQ, que fera face le PLQ, sont énormes, on n'a pas besoin de se le dire. Sa base électorale se limite essentiellement à Montréal. Faut aller chercher les régions sans nier ses origines, sans nier ses acquis. C'est une sacrée job. Est-ce que le fait, et je pose la question très franchement, est-ce que le fait que Dominique Anglade soit d'origine haïtienne, une femme, va lui faciliter la tâche partout au Québec? On verra bien. Mais reste que pour tout de suite, je dirais qu'elle s'installe tranquillement et ceux et celles qui l'ont rencontrée, qui lui ont parlé, partagent de ce que j'ai compris mon interprétation. C'est-à-dire qu'il y a une leader qui est en place maintenant et qui peut apporter un certain vent très cher et qui va ramener le PLQ un peu à gauche, ce qui n'est pas difficile et ce qui va faire du
Dominique Anglade a au moins convaincu une personne
Frédéric Lapointe.
Un virage nationaliste et c'est Don McPherson de la Gazette qui s'en plaint amèrement
en se demandant
si les anglophones ont encore leur place au Parti libéral du Québec.
Et c'était la question, Frédéric Lapointe, que je voulais vous poser. Elle a pris des positions relativement étonnantes pour un leader libéral, justement dans ce domaine-là. Est-ce qu'elle casse le lien avec l'électorat anglophone? En tout cas, si on se fie à Don McPherson, oui, mais pour qui peuvent-ils y voter sinon, de toute façon?
Ben voilà. Je pense que le calcul du Parti libéral du Québec est le bon. Je pense qu'ils sont suffisamment pragmatiques pour tenir cette route le temps qu'il faudra. Reste à voir si les cris de certains leaders de la communauté anglophone, au fond, n'aideront pas Dominique Anglade à être crédible dans le reste de la province, parce que elle pourra s'en servir comme d'un gage, comme d'une preuve, comme d'une fleur à la boutonnière, et au final, il n'y a pas une circonscription de la région de Montréal qui va lui échapper à cause de ça.
Et alors, est-ce qu'elle a, en terminant, là, est-ce que la perception qu'en a Frédéric Bérard, est-ce que les électeurs, les Québécois ont cette perception favorable à ce moment-ci de Dominique Anglade pendant cette session-là, là, puisque c'est de ça dont on parle? Est-ce qu'elle a réussi à installer un début d'identité, construire un début d'identité politique, d'après vous?
Ben, je dirais pas encore auprès de la population. C'est remarqué auprès des observateurs, mais auprès de la population, même si elle fait un travail tout à fait correct à l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire qu'elle a encore marqué de grands coups qui créerait une attention, une curiosité ou le début d'une cote d'amour dans la population du Québec. Elle n'est pas encore là.
Alors, chers amis, Frédéric Bérard, Frédéric Lapointe, nos deux commentateurs de l'actualité politique, merci d'avoir été avec nous cette semaine, puis à la prochaine.
Salut,
à bientôt. Dans un instant, chers auditeurs, avec Farouk Karim, nous revenons sur cette fin de session à Ottawa cette fois-ci. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
Alors, évidemment, ces temps de pandémie, session parlementaire très mouvementée à Ottawa aussi, il va sans dire, grande frousse sur les vaccins à un certain moment, puis une espèce de baume là, à la toute fin, tout récemment, quand on a appris, un baume pour M. Trudeau, bien sûr, quand on a appris que la vaccination commençait là, déjà, c'est dans les prochaines heures, dans les prochains quelques prochains jours. On jase de tout ça avec Farouk Karim, notre observateur à Gatineau. Bonjour Farouk Karim.
Bonjour Nick.
Alors, est-ce que qu'est-ce qui retient votre attention dans cette session? Tiens, je pose la question de façon très large comme ça. Est-ce que c'est un Aaron O'Toole qui surgit comme une étoile ou est-ce que c'est Justin Trudeau qui arrive? Et c'est ce qu'on voit dans les sondages, à se maintenir en assez bonne posture malgré tout.
Oui, je crois que comme dans toutes les province à Ottawa, c'est la COVID qui retient l'attention de la fin de cette session parlementaire, comme vous l'avez dit, sur l'histoire des vaccins. Donc, à surveiller, on est à Ottawa, au niveau fédéral, toujours sous peu, à un moment donné en élection, puisque c'est un gouvernement minoritaire, donc on est dans une position préélectorale, disons, donc il y a les partis qui se positionnent. Ce qui amène M. Trudeau à être faire attention à la distribution des vaccins. Il comprend qu'il joue sa prochaine élection sur la fin de la pandémie et sur la distribution des vaccins. Donc, il fait très attention, les bonnes nouvelles, les vaccins arrivés plus tôt que prévu, minimise les attentes, livre plus que prévu, donc ménage les perceptions là-dessus. Et de l'autre côté, vous l'avez aussi mentionné, l'autre fait intéressant à Ottawa, c'est l'arrivée du nouveau chef des conservateurs, qui est l'adversaire direct de M. Trudeau. Et ce qui est intéressant avec l'arrivée de M. O'Toole, c'est qu'on sent vraiment un changement de stratégie vers des conservateurs qui sentent qu'ils ne peuvent pas refaire la même élection que la dernière fois et espérer un résultat différent.
En effet, on y reviendra dans un instant. Continuons d'abord avec les libéraux de M. Trudeau. Y a-t-il ou non eu cafouillage ou est-ce qu'on s'est vraiment traîné les pieds? Est-ce qu'on a vraiment fait le mauvais choix là? C'était le blâme que faisait M. O'Toole au gouvernement Trudeau dans le dossier des vaccins ou est-ce que finalement les choses sont pas en train de tourner à la faveur de M. Trudeau?
Oui, je crois que une erreur stratégique des conservateurs dans l'histoire du vaccin, c'est d'avoir un peu trop surexploité la possible confusion ou bien le manque de préparation du premier ministre et du gouvernement et en mettant la barre tellement basse que M. Trudeau, finalement, avec quelques centaines de milliers de vaccins à la fin décembre, s'en tire pas mal bien. Donc, je crois que du côté des vaccins, ça va plutôt bien, c'est bien accueilli. Il faut voir aussi l'état de l'opinion publique. Hein. C'est le cas d'un peu dans toutes les provinces. On est tanné de la COVID, on voit la lumière au bout du tunnel. On était inquiets, est-ce qu'on va être les derniers, quand est-ce que les vaccins vont arriver? Ils arrivent au compte-gouttes, mais ils arrivent. Mais après ça, c'est l'opération de distribution. On peut avoir découvert les vaccins, on peut avoir les contrats de vaccins, de vaccins, de commandes de vaccins des entreprises pharmaceutiques. Mais ce qu'il faut en bout de ligne, c'est que le vaccin soit dans le bras du vacciné. Oui. Et entre ces deux, entre l'arrivée des vaccins et la vaccination, c'est aussi un autre enjeu. C'est ça qu'on va voir qui va commencer dans les prochains jours. Mais le gros va être dans le premier trimestre de l'année prochaine. Et c'est là qu'on va voir, je crois, comment est-ce que l'opinion publique va réagir par rapport à la gestion des libéraux.
Vous avez commencé tout à l'heure en parlant d'une possible élection. C'était une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on était vraiment à la veille de ça? Entendez-vous des bruits à Ottawa? Si oui, ce serait quand? Quels sont les possibles, logiquement, là, les moments possibles pour une élection?
Oui, c'est-à-dire que en ce moment, il n'y a pas de fenêtre d'ouverture parce qu'il y a la période des fêtes. Je ne crois pas qu'il y aura d'élection en janvier-février, d'autant plus qu'on est dans une étape critique de la pandémie avec les gens qui sont à l'intérieur, les rassemblements illégaux de Noël qui vont s'en venir. Je ne crois pas qu'à court terme, par contre, la prochaine fenêtre qui s'ouvre, et je crois que c'est là que M. Trudeau et M. O'Toole sont en train de placer leurs pions, c'est à l'entour du prochain budget. Donc, on peut s'attendre fin février, début mars, dépendamment de quand le budget va être annoncé. Le budget étant un élément de vote de confiance au Parlement, le gouvernement étant minoritaire, il y a une possibilité d'élection si les partis d'opposition ne sont pas satisfaits de l'offre des libéraux, ou même si les libéraux eux-mêmes veulent faire exprès de se faire battre. Donc, ce serait la prochaine fenêtre, ce serait au retour de mars 2021. Et ce qu'on entend ici, dans les corridors de la colline, les corridors virtuels, évidemment, par vidéoconférence.
Pour peu qu'on puisse trouver des corridors sur une colline, en effet.
Exactement. Et ce qu'on entend, c'est que, ben, en fait, ce qu'on comprend, c'est que tout ce qui est en place en ce moment, c'est pour un affrontement au budget. Et là, il faudra d'abord voir l'état du contexte de la pandémie, de l'opinion publique. Mais la prochaine fenêtre, pour répondre à votre question, c'est la fenêtre du budget.
Maintenant, qu'en est-il de cet apparent front commun des provinces là sur sur ce qu'on demande en termes de transfert en santé? La demande est corsée. La réunion avait lieu cette semaine, virtuelle aussi, évidemment. 28 milliards de façon récurrente, là, par année, donc, de transfert supplémentaire pour éponger, bien sûr, les frais extraordinaires de cette pandémie. M. Legault est sorti de là en disant « Justin Trudeau ne va nulle part avec ça. On se reprendra s'il y a des élections. Hein, » voulant dire « Tiens-toi bien, mon Justin, je vais te remettre la monnaie de ta pièce. » Mais du côté de Justin Trudeau, on manifestait quand même une sorte d'ouverture en disant « Oui, oui, nous allons augmenter les transferts, mais pour le moment, il ne faut pas... parler de ça parce qu'on est en pleine pandémie et commençons par régler ce problème-là. Remarquez qu'en même temps, le gouvernement fédéral annonce bel et bien des investissements importants, notamment en infrastructure. C'est donc dire qu'on peut quand même dépenser de l'argent, si on veut, dans des secteurs qui n'ont pas directement trait à la pandémie.
C'est le retour du déséquilibre fiscal, Nick.
C'est ça.
Cette belle bibitte qu'on a beaucoup parlé au fin des années 90, début des années 2000.
Notamment par le ministre Yves Séguin, qui était libéral, oui. Et les péquistes absolument. Avaient repris ça à leur compte, oui.
Absolument. Et qui a ultimement, pour la petite histoire, résulté en 700 millions de transferts du gouvernement Harper à Charest, qui s'est transformé en baisse d'impôts avant une élection.
Un chèque, donc, oui, c'est ça.
Oui, mm-hmm. Ça, le gouvernement fédéral s'en rappelle très bien de celle-là.
Oui.
Et donc, pour faire un peu de pédagogie, les coûts en santé augmentent dans les provinces. C'est le secteur d'activité qui augmente le plus en termes de coûts. Et les revenus ne sont pas au rendez-vous aux provinces. Les revenus à Ottawa augmentent plus vite que leurs dépenses. Et donc, ça crée ce déséquilibre. Et c'est ce qui crée le Front commun provincial pour augmenter les transferts en santé. Bon, après la première journée, il n'y a personne qui s'attendait à ce que ce soit réglé. Et il faut mettre ça dans le contexte de ce que je décrivais précédemment, dans un contexte électoral, fédéral. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et il faudra voir au prochain budget comme étant l'examen final de M. Trudeau. Cette semaine, c'était la rentrée des classes, si on poursuit l'analogie, mm-hmm. Et l'examen final pour voir si les transferts seront au rendez-vous, seront soit au budget ou soit en engagement électoraux dans une plateforme électorale. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne crois pas que les libéraux de Trudeau puissent aller en élection sans avoir ouvert le jeu sur les transferts en santé, d'autant plus qu'ils voudront contraster avec l'approche conservatrice de M. O'Toole et de mettre M. O'Toole dans un coin. Est-ce que vous voulez augmenter les transferts ou vous allez couper? Et je crois que ça s'en va tranquillement dans cette direction-là. Et en ce moment, c'est un jeu de contre-pouvoir et de pouvoir pour s'assurer d'aller chercher le maximum d'argent possible des provinces.
Est-ce que la position de M. O'Toole est connue là-dessus? Veut-il couper, augmenter? Est-ce que, de quelle façon on le mettrait en difficulté, autrement dit, là-dessus?
Jusqu'à maintenant, puisque la position de M. Trudeau n'est pas claire, la position de M. O'Toole ne l'est pas plus non plus. Mais il est positivement pour la tarte aux pommes. Donc, on est pour plus de services.
La crème glacée, oui. Ouais.
Mm-hmm. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis qu'ultimement, quand M. Trudeau va ouvrir son jeu, ça va forcer M. O'Toole à se positionner. Évidemment, si M. Trudeau ouvre son jeu en matière de transfert, ce sera pour les augmenter et voir si M. O'Toole ira... va égaler cette offre, va aller en dessous, au-dessus, et je crois que ça va être un enjeu électoral pour la prochaine campagne fédérale.
Le temps nous bouscule un peu. Parlons de M. O'Toole, de son arrivée. Comment ça se passe pour lui? On a vu récemment cette espèce de pétition parrainée par Derek Sloan contre, ou en tout cas qui était très méfiante sur la question des vaccins. M. Sloan étant évidemment un autre membre du parti de M. O'Toole, qui fut, je crois, candidat à la chefferie, ou en tout cas candidat pressenti, vous me corrigerez, là, je ne me souviens plus exactement. Oui, voilà. Ça faisait désordre un peu, non? Le parti qui, d'un côté, met de la pression pour avoir des vaccins, et de l'autre, appuie des pétitions plus ou moins anti-vaccins?
Oui, bien ça, ça représente très bien un microcosme de ce qui se passe à l'intérieur du Parti conservateur avec l'arrivée de M. O'Toole.
Alors, l'unité n'est pas faite, là?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que ce que M. O'Toole fait depuis qu'il est devenu chef, ce qu'il tente de faire, c'est que la théorie est simple. Pour que les conservateurs puissent gagner une majorité, il faut qu'ils augmentent leur plafond d'électeurs disponibles, ce plafond d'électeurs disponibles est environ à 40 % grosso modo. La dernière fois que les conservateurs ont obtenu une majorité, c'est en 2011, ils ont eu 38 % du vote. Mais 38 sur 40, c'est quasiment aller chercher tout l'ensemble des voteurs disponibles, ce qui est quasiment impossible. Et qu'est-ce que M. O'Toole et son équipe ont identifié pour augmenter le nombre de voteurs potentiels qui pourraient voter pour les conservateurs? C'est un peu d'adoucir leur positionnement sur quelques enjeux clés.
Et aller chercher le Québec aussi, non? Hein, dans une certaine mesure.
Donc, les enjeux clés où ils veulent se recentrer. Des questions québécoises que vous avez dit, donc identité, langue, loi 21, transfert en santé, etc. Ça, c'est la première clientèle. La deuxième, c'est tout ce qui est les questions sociétales, pro-choix, mariage gay, etc. Recentrer bien le parti là-dessus. M. Scheer a failli là-dessus. On se rappelle du premier débat en français à TVA à la dernière campagne. Mm-hmm. Donc ça, c'est la deuxième clientèle. La troisième, c'est qu'il a ouvert un jeu plus économique, un discours plus, contre les inégalités économiques. M. O'Toole est allé devant la Chambre de commerce de Toronto, un groupe équivalent, le Economic Club, mm-hmm. et il avait un discours qui a été qualifié similaire à Bernie Sanders. Donc, imaginez, donc.
Mais est-ce que c'est, d'après vous, pour les conservateurs, ben je suis certain que certains disent, notamment dans ce parti, il faut faire le contraire, il ne faut pas se rapprocher des libéraux, il faut s'en distinguer davantage, sinon on ouvre un champ, qui sait, pour que quelqu'un d'autre à notre droite, un Maxime Bernier qui serait plus performant, je ne sais pas, on n'est pas rendu là, mais est-ce qu'il y a un problème d'identité là? Est-ce que la fracture se fait là-dessus au sein du parti?
Mais en fait, c'est ça qui est intéressant à suivre. Est-ce que tous ces changements en parole de M. O'Toole, c'est du marketing politique ou est-ce que c'est vraiment un changement de programme et d'orientation du parti? Et mm-hmm. la seule façon, d'après moi, ben pas la seule, mais une des façons de savoir si c'est du marketing ou si c'est vraiment un changement de paradigme, c'est voir quel genre de tension à l'interne ça crée. S'il y a vraiment des vraies tensions à l'interne et des groupes, et à ce moment-là, on pourra conclure qu'il y a vraiment un changement de paradigme. Si c'est seulement du marketing politique, les gens vont serrer les coudes et ça va devenir juste du message politique et il n'y aura rien dans le fond. Mais c'est ça qui serait intéressant à voir.
Donc, ils laisseront.
Les questions québécoises, les questions environnementales ou les questions d'inégalité économique, de voir comment le Parti conservateur dans les prochains mois se positionne, si c'est vraiment sincère ou c'est du maquillage politique.
En effet. Donc, vous êtes en train de dire que si c'est pas trop sérieux, on laissera passer la tempête en se taisant à l'interne et jusqu'à la prochaine élection, finalement. Ce discours d'Erin O'Toole, on termine là-dessus, il nous reste 30 secondes, sur le Québec, la défense de la langue française au Québec, le nationalisme québécois était, ma foi, presque du jamais vu dans le genre, non? Ça allait très loin.
Je crois que c'est du Harper Plus. Hein. Vous vous rappelez de Harper 2005-2006, mm-hmm. le siège à l'UNESCO, la reconnaissance de la nation québécoise. Mm-hmm. Mais je crois que ça va une étape plus loin. Mais la raison pourquoi ça va une étape plus loin, ou c'est plus poussé, c'est en raison du contexte politique au Québec. C'est parce que ces questions-là sont gagnantes politiquement, que ce soit la loi 21, la laïcité, la langue française ou la défense, sont gagnantes politiquement. On voit les scores de la CAQ, notamment dans les mm-hmm. derniers mois. Ça pousse les partis politiques au fédéral à être beaucoup plus attentifs à ces questions-là, et notamment le Parti conservateur, qui idéologiquement, hein, sont le parti qui reconnaît les deux peuples fondateurs.
A toujours été un peu plus près de ça, en effet, oui.
Exactement, et si vous analysez le discours des conservateurs, ça se rapproche très, très, très près du discours identitaire québécois, et pour moi, le Bloc québécois, on pourrait finir là-dessus, le Bloc québécois devra être sur ses gardes à cette prochaine campagne électorale, parce qu'il y aura des clientèles électorales communes.
En effet. Alors, Farouk Karim, merci, et à une prochaine très bientôt, j'espère. Joyeux Noël confiné, bien sûr.
Merci à vous aussi.
Si on ne se parle pas d'ici là. Dans un instant, chers auditeurs, Frédéric Lacroix réagit à cette initiative de 6 anciens premiers ministres du Québec en faveur de la langue française. À tout de suite.
Prenez note que l'émission Société a été enregistrée en direct samedi dernier. Elle vous est présentée ce matin en rediffusion. Pour l'écouter en direct, synchronisez Radio-VM le samedi à midi.
qu'ont en commun les deux frères Johnson, Pierre-Marc et Daniel, mais aussi Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard, c'est qu'ils signaient cette semaine une lettre ouverte en appui aux élus de l'Assemblée nationale dans la demande d'appliquer la charte de la langue française aux entreprises qui sont sous juridiction fédérale. C'est une étonnante coalition de premiers ministres péquistes et libéraux. Plusieurs ont vu ça comme un beau progrès en perspective là, pour notamment la CAQ et la capacité de Simon-Jolin Barrette d'aller de l'avant dans ce dossier-là. Qui de mieux que Frédéric Lacroix, chercheur, celui qui publiait récemment le livre « Pourquoi la loi 101 est un échec ». Il est avec nous au bout du fil. Bonjour Frédéric Lacroix.
Bonjour.
Est-ce que c'est « Pourquoi la loi 101 est un échec » Pardon, est-ce que j'ai malmené votre titre?
C'est bien ça, c'est bien le titre.
Voilà, bon, en effet. Qu'est-ce que ça vous a sonné comme cloche, ça, vous, cette annonce-là? C'est une initiative de Gilles Duceppe, hein, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est normal, c'est ordinaire, ça, de vouloir demander l'application de la Charte de la langue française aux entreprises de juridiction fédérale?
En lisant ça le matin, je me suis dit 2020 ne cessera de nous étonner, premièrement, parce que c'est quand même assez inouï, inhabituel. On dirait ça il y a quelques années que cette lettre-là paraîtrait, puis personne n'y aurait cru. Donc, c'est vraiment digne d'un scénario de science-fiction.
Qu'est-ce qui explique ça? C'est le poids de la CAQ dans le paysage politique? C'est le fait que, c'est, comme le disait à l'instant Farouk Karim, ce sujet-là est devenu politiquement payant? Consensuel?
Oui, je ne sais pas si c'est consensuel, je pense pas, mais je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience. Il y a un réveil linguistique qui est en train de se produire, ça c'est indéniable. Puis, par exemple, on a vu Mélanie Joly admettre que le français reculait au Québec, ce qui est quelque chose de vraiment inouï. Là, le Parti libéral du Canada n'a jamais reconnu ça, même si le recul est là depuis un bon bout de temps. Puis là, on dirait que la réalité du recul du français peut plus être niée, puis on dirait qu'il y a comme une prise de conscience, puis ça se traduit politiquement par ça. Donc moi, je pense que c'est une belle initiative, c'est heureux. Ce qui est un peu surréaliste dans cette lettre-là, c'est que si on regarde les 6 signataires, il y a seulement une signataire qui a essayé de faire quelque chose pour bonifier le statut du français au Québec, c'est bien sûr Mme Marois.
Voilà.
Tous les autres ont travaillé activement à miner le français. Là, je pense à M. Charest et M. Couillard là, qui ont saccagé les programmes de francisation, par exemple. Donc, c'est vraiment... Il y a quelque chose de surréaliste dans
l'alignement
des planètes.
Oui, ou encore refuser d'agir dans le cas des écoles passerelles et le reste. Mais est-ce que... Dites-moi, vous avez parlé de ce qui s'est produit avant cette lettre, dans les semaines qui ont précédé, Mélanie Joly qui reconnaît le problème, le gouvernement Trudeau dans l'ensemble, là, qui est assez vocal là-dessus et affirmatif. Généralement, les libéraux de Justin Trudeau font des constats comme ceux-là et éventuellement présentent des excuses et ont la larme à l'œil pour des causes un peu perdues, c'est-à-dire pour des gens qui sont déjà vraiment très, 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 très mal pris. Donc, ça coûte pas cher de se montrer empathique. Est-ce que c'est ce qui est en train de nous arriver? Est-ce qu'on est rendu tellement dans le trou que ça coûte rien pour les libéraux de se montrer favorable?
Effectivement, la menace séparatiste n'est plus là. Le Québec est assez faible, donc ça amène peut-être un peu plus d'ouverture. Puis de l'autre côté, faut pas se leurrer, là, le Bloc québécois a monté beaucoup. Donc je pense qu'il y a la pression que le Bloc québécois exerce sur le Parti libéral là, qui est en grande partie à l'origine de ça. Là.
Alors il pèse, oui. Mais Frédéric Lacroix, la question qu'il faut que je vous pose, parce que le temps nous bouscule, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'une mesure comme celle-là change vraiment quelque chose sur le fond à l'heure où on est en train de ficeler les projets Dawson et McGill, notamment à Montréal? Là? que vous dénoncez,
ben,
vous.
Ben voilà, c'est là que le bât blesse, parce que une mesure comme l'extension des clauses de la charte aux entreprises de la charte fédérale, là, de la charte de la langue française, bon, ça, c'est une avancée, ça, ce serait une avancée symbolique. Moi, je doute que Justin Trudeau va le faire, là, faut que ça reste à voir. C'est une avancée symbolique, mais c'est pas quelque chose qui va changer la dynamique. Il faut pas compter là-dessus pour sauver le Québec français, là. Ça, c'est pas vrai. C'est une mesure qui va avoir un petit impact qui ne changera pas le fond des choses. Ce qui est ironique, c'est que, ben, justement, la CAQ a déjà exclu la mesure qui changerait quelque chose. Donc, c'est l'extension des clauses scolaires de la charte au collégial. Donc, à Montréal, la moitié des places au collégial sont maintenant dans les cégeps anglais. Puis là, la CAQ vient de voter en faveur du projet de loi 66 où on finance une expansion princière à Dawson. Puis, on donne, tu sais, on fait un agrandissement royal à McGill avec le Royal Victoria. Donc, on parle de projet. Au bas mot, c'est 750 millions. Ça, c'est l'estimé de coût. Mais le coût final, on peut probablement multiplier cette somme-là par deux. Donc, d'un côté, Simon Jolin-Barrette sort pour exiger l'extension, bon, qu'il y ait des entreprises à charge fédérale se conforment à la loi 101. De l'autre, la CAQ met de l'essence dans le feu de l'anglicisation de Montréal, puis beaucoup, beaucoup d'essence. Donc, il y a comme une incohérence vraiment dramatique là, dans l'action de la CAQ entre ce que la CAQ fait.
En 20 secondes, Frédéric Lacroix, est-ce que une fois qu'on a dit ça, là, qu'on assujettit les entreprises à la charte de la langue française, est-ce que ça se fait d'abord? Est-ce qu'il faut y mettre les moyens au-delà du symbole? Est-ce qu'on est capable de faire ça?
Ben, il faudrait que le fédéral dise OK, faudrait que ça devienne une loi fédérale. Sinon, il faudrait que le fédéral cède un champ de juridiction, ce qui n'arrivera jamais. Donc, ce que le fédéral pourrait faire, c'est de dire OK, vous appliquez cette loi provinciale. Bon. Ça pourrait être fait. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la dynamique des langues de travail dans ces domaines-là? Ça reste à voir.
Bien, en effet, parce que là, on dépend de bien plus large que le seul contexte québécois et canadien, là, si je comprends bien.
Oui, bien là, ça s'appliquerait seulement sur le territoire du Québec, bien sûr.
Alors, Frédéric Lacroix, on y reviendra parce que le temps nous bouscule, mais allez vous confiner pour le temps des fêtes, puis on suit ça de près. On achète votre livre, bien sûr, Frédéric Lacroix, auteur de « Pourquoi la loi 101 est un échec » aux éditions du Boréal. Merci beaucoup, Frédéric Lacroix.
Merci.
Chers auditeurs, Nick Payne qui vous dit à samedi prochain pour une dernière avant les fêtes. Portez-vous bien.